Le Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras a 16 ans. Chaque 1er mai, l'association Colère du Présent organise cet événement, ne pas manquer à Arras. Et mercredi 1er mars, la presse était conviée au Bibovino pour la présentation officielle de la nouvelle affiche du salon, mais aussi pour connaître les grandes lignes de ce qui se passera le 1er mai et en amont du Salon du Livre. Entretien avec François Hanick, coordinateur du salon, pour en savoir plus sur la programmation et l'auteur de l'affiche. On évoquera avec lui également son voyage en Turquie, où il a rencontré des auteurs invités sur le salon.
L'affiche est signée Julie Marot. Julie Marot, c'est une dessinatrice et puis une auteure de bande dessinée que l'on connaît parce qu'elle a eu le prix Angoulême en 2011. Et on la connaît aussi parce qu'elle n'est pas loin d'ici, elle est née à Lens. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est ancré dans le territoire et qui a une carrière internationale hyper intéressante. On est vraiment très très content qu'elle puisse faire l'affiche du Salon du Livre.
Alors, elle a aussi été au centre d'un événement qui a fait polémique. Allez, tu peux nous expliquer un petit peu ?
En fait, sa bande dessinée « Le bleu est une couleur chaude » a été adaptée pour le cinéma. C'était La vie d'Adèle. Et donc, effectivement, il y a eu une petite tension, une grosse tension, une énorme scandale. Enfin, bon, ça dépend à quel endroit on se trouve. Parce que l'adaptation était non pas une adaptation, mais une recréation avec un point de vue de Kechiche, Abdelatif Kechiche, qui était assez particulier. Tension qui était d'autant plus explosive que le film a eu la Palme d'Or à Cannes et que, en plus, Julie Marot n'a pas été invitée.
C'est la première fois qu'une affiche représente un terrain minier.
En fait, chaque année, on a quelque chose autour d'Arras. On invite toujours la personne qui fait l'affiche parce qu'elle est venue déjà une première fois le 1er mai. Et donc en général, voilà, on a les façades, on a le beffroi, on a tout ça. Et là, pour la première fois, effectivement, on a le bassin minier. Et pour nous, c'est hyper important parce qu'on travaille dans le bassin minier, on travaille dans l'Arrageois. Et que là, pour la première fois, sur l'affiche, on a l'ensemble du territoire sur lequel on intervient.
Le Salon du Livre, donc on se reverra évidemment pour entrer dans les détails ultérieurement. Est-ce que tu peux nous briefer sur les grandes lignes, les grandes thématiques qui sont abordées sur ce 16e Salon du Livre cette année, le 1er mai?
Finalement, en réfléchissant bien, on a une thématique, c'est l'utopie. C'est l'utopie parce qu'on s'est dit, finalement aujourd'hui, dans le monde actuel, la question du rêve et de l'utopie réaliste, celle qu'on peut atteindre, c'est peut-être la question essentielle où que l'on soit. Politiquement, socialement, économiquement, on manque d'utopie, et c'est remettre de l'utopie, remettre du rêve, ça permet peut-être de réenchanter le monde. Et donc on s'est dit l'utopie, c'est au cœur de tout. Et l'utopie, au cœur de la politique, ça donne quoi? Ça donne soit une évolution vers plus d'autoritarisme, donc ça c'est la vision turque, on va dire, une utopie négative, mais une utopie quand même, parce que c'est porté par un idéal. Ou soit la vision islandaise d'une démocratie vraiment partagée, avec les nouvelles technologies aussi impliquées. Et finalement, l'Islande et la Turquie sont en plus les deux pays qu'on invite. Et on s'est dit, finalement, l'utopie politique, l'utopie de la démocratie en Europe, peut être interrogée par ses marges. Et l'autre utopie qu'on voulait aborder, c'est l'utopie dans le monde du travail. Des utopies qui sont négatives, ou en tout cas qui peuvent être polémiques, comme celle du monde 2.0 qu'on nous sert, avec les nouvelles technologies comme Alpha et Oméga de l'évolution des entreprises, qu'il faut interroger parce que c'est l'idéologie derrière. C'est la Silicon Valley, c'est Google, c'est ces énergies-là, ces entreprises-là, qui dominent le monde, c'est Amazon. Et il est plus que temps de poser la question des idéologies qui portent cette utopie du monde 2.0. Et l'autre utopie qu'on voulait aborder aussi, c'est la question du revenu universel, qui est abordée depuis le 18e siècle et qui aujourd'hui a beaucoup d'actualité, mais qu'on trouvait intéressant de remettre en débat le 1er mai.
Alors, évidemment, il y aura encore des pointures, auteurs, invités, notamment islandais et turcs également. Tu peux peut-être nous donner quelques noms comme ça, vite fait ?
Alors, en Islande, on a effectivement des auteurs de romans comme Arni Thorarinsson ou aussi Erik Örn Nordahl. On a également une personnalité politique comme Birgitta Jonsdottir. Chez les Turcs, on a quelques auteurs aussi importants comme Hakan Gunday, qui est un auteur exceptionnel, qui a eu le prix Médicis en 2015 pour son livre Encore, que j'enjoins tout le monde à lire, c'est vraiment incroyable. Yigit Bener aussi, qui est l'un des grands prix turcs en littérature, et un tout jeune auteur qui a sorti un seul livre en Turquie et qui va sortir du coup son premier livre en France, c'est Imra Serbès, et on est très content de pouvoir l'accueillir, en plus dans une maison d'édition qui n'existe pas encore et qui va exister en mars, les éditions Belleville.
Tout récemment, tu es parti justement en Turquie pour rencontrer les auteurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton voyage ? C'est vrai que la Turquie en ce moment, c'est pas non plus le pays idéal pour aller passer quelques jours là-bas, donc comment tu l'as vécu ce moment ?
C'était des vacances au départ. Donc je l'ai vécu très bien comme des vacances. On en fait beaucoup sur la Turquie en disant que c'est un pays qui vire dictature et compagnie. Il se trouve que la création turque la plus en pointe est portée par des Arméniens et des Kurdes. Donc les minorités en Turquie ont une place que les minorités en France n'ont pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant de remettre les choses à leur place. Et quand on se balade en France ou quand on se balade en Turquie, on a les mêmes soldats, les mêmes policiers et les mêmes gendarmes. Ils ont peut-être eux des blindés en Turquie que nous on n'a pas, mais finalement on se dit que c'est bon, c'est pas tout à fait le même régime, hein, c'est sûr. Le Erdogan au pouvoir et c'est pas le pouvoir qu'on a ici en France. Mais il suffirait de quelqu'un d'un peu sur cette ligne-là et tout est déjà en place.
Est-ce que tu as senti un petit peu la tension que nous on perçoit au travers des médias qui nous disent que le président ça purge, etc., etc., il met en prison tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça se sent là-bas quand tu passes quelques jours, tout simplement ?
Alors en tant que touriste, tu le sens pas, même si je me suis baladé vraiment dans beaucoup de quartiers, quasiment tous les quartiers d'Istanbul, qui est une ville qu'on découvre en marchant. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Il faut avoir un peu de résistance parce que ça monte et ça descend, mais c'est une ville qu'on découvre en marchant. J'ai rencontré certains des auteurs qu'on invite le 1er mai, et c'est dans ces discussions-là qu'on découvre à quel point les tensions sont en train d'exploser. On a deux échéances là qui sont très importantes. Il y a Aslı Erdoğan, qui est l'auteur qui a été libéré avec quand même l'obligation de rester sur son territoire, mais qui est à nouveau en procès très prochainement, d'ici une semaine ou 15 jours. Donc il faut suivre ça de près parce que c'est quelqu'un qui est une sorte d'icône. Il faut savoir qu'il y a quand même 300 journalistes en prison. Il y a 100 000 fonctionnaires qui ont été débarqués. Il y a des associations interdites. Il y a voilà, tout ce mouvement-là et des auteurs, des intellectuels, des universitaires en prison. Aslı Erdoğan, c'est un symbole. Et donc, elle repasse en procès quasiment au moment de son anniversaire. Son anniversaire, c'est le 10 mars. Et l'autre élément important et assez grave, c'est le référendum qui aura lieu en avril. Référendum où Erdoğan, donc cette fois-ci le président, pose la question des pleins pouvoirs et donc d'un régime autoritaire pleinement assumé. Et là, on en est au début, mais ça monte, quoi, ça grimpe. On sent les tensions qui sont sur le point d'exploser. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir des manifestations dans la rue. Et les manifestations là-bas sont parquées, en fait. Les gens manifestent, mais dans des barrières. Donc on sent qu'ils essaient de retenir au maximum les choses. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un territoire en pleine actualité qui, en plus, c'est pas uniquement l'exotisme. Une partie de la Turquie est en Europe. Et une partie du modèle turc est un modèle pour certains pays européens. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Turquie. Parce que tous les sujets d'actualité ont un impact en Turquie. Et tout ce qui se passe en Turquie a un impact partout en Europe.
Pour terminer, le 1er mai, le salon du livre plutôt, c'est pas que le 1er mai, il y a aussi plein de choses en amont, donc il se passera également plein de choses. Brièvement, tu peux nous dire les phases importantes ?
Oui, en fait, on s'est dit que finalement, on mène à peu près une trentaine d'événements en avril. Et donc, finalement, c'est la littérature d'expression populaire et de critique sociale sur la route pendant un mois et sur les places pendant une journée. Et cette littérature sur la route, elle se traduit par différentes rencontres, débats, conférences, etc. On a notamment, en début de mois, en avril, la remise du prix Ado en colère, qui rassemble entre 400 et 500 adolescents sur des questions d'actualité et de la littérature. Ça, c'est quand même un grand moment. On a Fred Dubonnet qui va parler de la 10e République à Avion. Ça, c'est avec Attac Artois. Et puis, donc, plein d'actions comme ça sur le territoire, un peu partout, même dans les banlieues des Hauts-de-France, c'est-à-dire à Paris. Et on a, en dernière semaine d'avril, sur la Rajoie, énormément d'événements qui vont s'organiser pour les professionnels comme pour le grand public. Et notamment, je voudrais pointer du doigt l'action qui aura lieu le 29 avril avec le foyer Les Ochettes. On organise une journée autour des mineurs isolés étrangers et c'est organisé par les adolescents eux-mêmes. Et ça se termine, alors là c'est encore plus, c'est la cerise sur le gâteau, par un duo, Jacques Darras et Jacques Bonafé, sur la question des poètes engagés à Rajoie. Ça, ça va être vraiment des perles qui vont s'enfiler les unes après les autres. C'est une journée magnifique.
Le prix Ado en colère, il se passera où cette année ?
Le prix Ado en colère, ça se passe le 7 avril à Grenay. Toute la journée, c'est vraiment aussi un événement assez exceptionnel. C'est assez rare de mêler littérature, donc fiction et réalité. Puisque les ados, on leur propose de rencontrer les auteurs, mais aussi des professionnels en lien avec les thématiques des livres. Et cette journée-là, c'est vraiment un ensemble de rencontres qui sont vraiment importantes, je pense, pour les adolescents, qui réalisent que finalement, ce qui se passe dans les livres, c'est aussi ce qui peut se passer dans la réalité. Et cette connexion entre fiction et réalité, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien à Colère du Présent.
C'était un entretien avec François Hanick de l'association Colère du Présent et coordinateur du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale qui fêtera ses 16 ans cette année. On évoquait avec lui la nouvelle affiche de cette édition et quelques événements prévus au programme.